أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جو جماعتیں
Les communautés qui sont instituées par les prophètes de Dieu ont certaines responsabilités. Elles ont certainement de très grandes responsabilités. Et en assumant leurs responsabilités, les membres de ces communautés méritent les récompenses de Dieu. Des récompenses qui leur ont été promises par Dieu. L'histoire de la religion nous enseigne qu'avant d'avoir le succès, ces communautés divines doivent faire des sacrifices et ces communautés passent aussi par d'innombrables difficultés. Comme je l'ai mentionné dans mon précédent sermon, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, ces personnes qui ont cru en un seul Dieu, ont fait des sacrifices pendant plus de 300 ans selon le Saint-Coran. Ils ont subi persécution, mais n'ont cessé de protéger leur foi. L'histoire des autres prophètes, l'histoire de leur communauté prouve que ces communautés et ces prophètes eux-mêmes ont subi persécution. Ces communautés ont dans certains cas passé par de très longues périodes de sacrifices. Ces sacrifices ont été consentis pour le bien du peuple et de la communauté, et c'est pour cette raison qu'ils sont tout à fait insignifiants. Le triomphe est destiné à ceux qui persévèrent dans la foi, à ceux qui font des sacrifices pour cette cause et à ceux qui sont fidèles. Et suite à ces succès, ils considèrent leur sacrifice comme tout à fait insignifiant. Si la première génération ne voit pas ces succès, la deuxième en profitera certainement. La fermeté dans la foi requiert que l'on ne doit pas se soucier des difficultés qui peuvent affecter ces communautés divines. C'est ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à la communauté Ahmadiyya, en particulier au Pakistan. Nombre de ceux qui êtes assis devant moi aujourd'hui ont des parents, des proches qui sont en train de passer par ces difficultés au Pakistan. Et c'est pour cette raison que vous êtes aussi soucieux. Les suivants des communautés divines sont toujours fidèles envers Dieu. Et les membres de cette communauté s'évertuent toujours à pratiquer les préceptes qui ont été apportés par les prophètes de Dieu. Aujourd'hui, en référence au Messie promis, je veux attirer votre attention vers l'importance de traduire dans la pratique les enseignements qu'il nous a présentés. Et le fait aussi que nous devons être fidèles envers lui et le fait aussi d'être à la hauteur des espoirs qu'il a placés en nous. Dans un de ses écrits, il déclare que si notre jamaat veut être une jamaat, elle va devoir s'inviter une mort. Elle va devoir éviter toute forme d'égocentrisme et doit aussi accorder prééminence à Dieu. Le Messie promis à l'Islam nous fait comprendre que le prophète Abraham à l'Islam avait un statut prééminent aux yeux de Dieu en raison de sa fidélité et en raison du fait qu'il était tout le temps en quête du plaisir de Dieu. Si l'on veut être fidèle, si l'on veut jouir de ce statut des bien-aimés de Dieu, on va devoir être prêt à faire ses sacrifices et on va aussi devoir oublier son âme. Un Ahmadi doit comprendre qu'il doit accorder prééminence à sa foi et il doit aussi accorder préférence au plaisir de Dieu. Lorsque tous les fidèles vont se concerter, vont s'unir, ils se tiendront tels une montagne face à de grands tyrans. L'histoire nous présente l'exemple de ces deux enfants qui ont fait de grands sacrifices. Ceux qui avaient tué Abu Jahl étaient que des enfants. Ils ont essayé de se surpasser les uns les autres pour l'attaquer. Aujourd'hui, les organisations djihadistes utilisent les enfants à leur fin et leur lave le cerveau et les utilise. Ces enfants qui, suite aux directives du prophète de Dieu, ont fait ces sacrifices au cours de la première période de l'islam, n'ont pas subi de lavage du cerveau et n'ont pas vécu en compagnie d'ignores non plus. À l'exemple de ces enfants qu'utilisent ces organisations djihadistes. D'aucuns diront que ces enfants sont en train de faire des sacrifices, mais ce sacrifice qui va à l'encontre des enseignements de Dieu, ce sacrifice que l'on fait suite à l'incitation de ceux qui ne pratiquent même pas les enseignements de Dieu et qui s'opposent à ses prophètes, eh bien, ces sacrifices ne sont nullement similaires à ceux consentis par les communautés divines. Les vrais sacrifices sont ceux qui ont été faits après avoir compris l'essence de la foi. La fidélité dépend de l'obéissance. Et aujourd'hui, l'obéissance envers Dieu et son prophète signifie que l'on doit chercher celui qui a été envoyé par Dieu. Cela veut dire aussi lui prêter allégeance, suivre ses enseignements et les traduire dans la pratique. Aujourd'hui, après l'accomplissement de tous ces signes et après les déclarations faites par le Messie promis à l'Islam, il est clair que c'est la communauté du Messie promis qui a été instituée par Dieu et qui est en train de vivre selon les préceptes de Dieu et de son prophète. Vous êtes chanceux d'en faire partie, mais il ne suffit pas d'en faire partie. La fidélité requiert que l'on doit toujours avoir en tête l'exemple du prophète Abraham et de son fils Ismaël al-Islam. La fidélité requiert que l'on doit aussi avoir en tête l'exemple des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes qui ont protégé leur foi. Nous disons que le Messie promis al-Islam est venu perpétuer la tâche accomplie par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, nous allons devoir suivre l'exemple des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons ont placé haut la barre dans l'accomplissement de leur salat, dans leur ibada. Ils ont passé la dernière partie de la nuit dans l'adoration de Dieu. Dans notre jamaat, par la grâce de Dieu, il y a de telles personnes. Il y a aussi des jeunes qui en font de même. Par certains moyens, j'en connais quelques-uns. Mais il y a aussi beaucoup qui le font en secret. Il y a beaucoup de personnes qui ne dévoilent pas leur ibada. Malgré le fait qu'ils travaillent pendant la journée, ils consacrent leur attention aux prières surrogatoires et la prière tahajjud. On doit voir plus d'exemples de ce genre parmi nos jeunes. Nous ne devons pas nous contenter de quelques exemples. Cela doit être la pratique de la majorité. Le facteur fondamental qui nous aidera à accorder prééminence à Dieu et l'ibada. Si cette habitude fait partie de notre nature, le succès nous sera destiné, Inch'Allah. C'est grâce à la salat que l'on sera porté à prier davantage, et c'est la salat qui sera le moyen pour nous réformer. C'est la salat qui sera le moyen pour nous protéger du mal de la société. Beaucoup de jeunes m'écrivent, me disent de prier pour eux afin qu'Allah les protège du mal. Mais pour se protéger du mal, le plus grand moyen est la salat et l'ibada. Allah d'annoncer que celui qui accomplira la salat, celui qui protégera ces salat sera protégé du mal. Et Allah n'est pas menteur. Si, en dépit de ces cinq prières quotidiennes, l'on n'arrive pas à se réformer, si le cœur ne s'est pas détourné des futilités et des bassesses de ce bas monde, il y a certainement quelque chose qui cloche en soi. Cela veut dire que sa salat n'est pas arrivée à la hauteur requise aux yeux de Dieu pour que l'on puisse se réformer. Nous devons faire des efforts afin de tirer le plaisir qui découle de la sola. On doit avoir cette ardeur afin que l'on soit agréé par Dieu. Le Messie promis à l'Islam déclare que si on accomplit comme il se doit la sola en 5 jours, l'on grandira spirituellement en ces 5 jours. Si nous avons en tête cela et si nous faisons des efforts en ce sens, Inch'Allah, Allah nous accordera son soutien. Quand nous allons faire ces efforts, certainement cela va affecter nos occupations mondaines. Notre amour pour Dieu va grandir. Et lorsque cet amour pour Dieu va grandir, l'on va certainement progresser spirituellement. Qu'Allah accorde la possibilité à chaque khadim et à chaque membre de la communauté d'atteindre ce niveau. Dieu ne nous interdit pas de travailler en ce bas monde. Au contraire, ils sont coupables ceux qui ne profitent pas bon escient des faveurs de Dieu. Ils sont coupables ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs et de leurs responsabilités concernant les tâches qui leur sont confiées. Le Messie promis à l'Islam dit à leur propos que s'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs, ils seront coupables. Mais on doit toujours accorder préférence à la foi. On doit accomplir ses travaux pour la cause de la foi. La foi doit tout le temps avoir préférence sur le monde et pas le contraire. L'on va devoir suivre les commandements de Dieu. Lorsqu'on accomplit la sola, si l'on agit ainsi, au moment de la prière, l'on va devoir abandonner son travail. Ensuite, en prodiguant des conseils, le Messie promis à l'Islam déclare que vous ne devez pas vous laisser emporter par vos émotions. Tout étranger qui vous rencontre va vous regarder de très près. Il va regarder de près vos manières, il va regarder de près votre persévérance et à quel point êtes-vous en train de respecter les préceptes de Dieu. Si vos actions ne sont pas louables, vous serez la cause de son égarement. Il déclare: souvenez-vous de cela. Voilà donc des points que nous devons toujours avoir en tête. Il déclare que les étrangers vont regarder de près vos manières et vos qualités. Dieu a déjà donné toute une liste de bonnes œuvres et d'excellences que l'on doit posséder et quels sont les vices et les péchés que l'on doit éviter. C'est en lisant le Saint-Coran que l'on va comprendre tout cela. Dieu a fait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam notre référence. Il est notre modèle dans ce domaine. Dieu lui a conféré ce statut en déclarant: wa innaka la ala khuluqin azim. Certainement, tu possèdes de très grandes qualités. Après lui avoir conféré ce statut, il nous dit: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certainement dans le prophète de Dieu un très grand exemple. Comme je l'ai évoqué, la liste de ses actions est très longue. Je ne pourrais pas mentionner tous les points de cette liste ici. Je vais en faire mention de quelques-uns à l'instar de la vérité. Dieu a fortement encouragé les gens à être véridiques. Il a dit que quelle que soit la situation, vous devez éviter le mensonge. Il est dit, Wajtanibu qawla zur, éviter le mensonge. À propos des croyants, il déclare, La yashhaduna zur. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas faux témoignage. Cela est le signe d'un croyant ordinaire. Le saint prophète Mohammed lui jouissait d'un statut plus élevé et ses ennemis l'ont accusé de beaucoup de choses, mais ne l'ont jamais accusé de mentir. Un jour, les koufars se sont réunis et ont décidé d'arrêter la campagne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux a dit que l'on doit le faire passer pour un menteur. Un autre a répliqué que personne ne te croira. Personne ne te croira, même si tu ne cesses de le répéter tout le long de ta vie. Car celui qui connaît le saint prophète Mohammed, soit celui depuis son enfance, sait très bien qu'il n'a jamais menti. Voilà l'exemple que nous devons avoir en tête. Un étranger doit témoigner que nous ne mentons pas. Possédez-nous une telle qualité? Certes, aujourd'hui, il y a des personnes qui, par inimitié, disent que nous sommes des menteurs. Dans le monde, cet antagonisme contre la communauté Ahmadiyya est en train de grandir. Il en est ainsi dans les pays musulmans, au Pakistan ou dans d'autres endroits où les gens sont influencés par des mollahs. Sans essayer de comprendre la vérité, ces personnes ne font que suivre des ouï-dire et nourrissent haine contre les Ahmadis. Et ils sont prêts à mentir à ce sujet. Mais il y a d'autres qui sont prêts à témoigner du contraire. Cela fait plaisir d'entendre de la bouche d'un étranger qui déclare qu'un Ahmadi dit toujours la vérité. Nous allons devoir transmettre ce message à tout le monde en possédant ses qualités. Et pour cela, nous allons devoir éviter tout type de mensonge. Nous allons devoir éviter toute fausse déclaration. Le moindre mensonge, la moindre fausse déclaration sera la cause du déshonneur de la communauté. Il y a beaucoup de personnes ici qui prennent des allocations de l'État, qui prennent des allocations au logement. Si vous le faites, vous allez toujours dire la vérité. Regardez l'exemple du Messie promis à l'Islam qui a suivi les pas de son maître. Un jour, il y a eu un procès concernant les biens de sa famille. Ses frères avaient intenté ce procès et la partie adverse s'est défendue en disant que si Mirza Ghulam Ahmad témoigne que nous sommes en train de mentir, nous accepterons cela et nous accepterons que nous sommes fautifs. Le Messie promis a été appelé comme témoin par la partie adverse. Et en disant la vérité, la famille du Messie promis l'Islam aurait subi des pertes. Mais le Messie promis l'Islam a dit toute la vérité et ses frères étaient en colère contre lui. Il a dit que je ne peux mentir en aucun cas. Voilà l'exemple de cet amoureux parfait du saint prophète que Dieu a envoyé pour notre réforme spirituelle. Lui qui a suivi les pas de son maître. Nous disons que nous sommes de sa communauté. Dans ce cas, nous allons devoir posséder ces qualités. Et il y a aussi une autre qualité qui est l'honnêteté et le respect de ses engagements. Il y a plusieurs aspects de l'honnêteté. Il y a le fait de respecter ses engagements, il y a le fait d'assumer ses responsabilités, il y a le fait d'accomplir ses devoirs envers les autres, il y a le fait d'assumer ses responsabilités envers son épouse et ses enfants. La liste est très longue à ce sujet. Je ne pourrais en faire mention de tous ces points ici. Mais quel fut l'exemple du saint prophète à ce sujet? Il y a l'exemple de ce berger qui a embrassé l'islam et qui était responsable d'un troupeau qui appartenait à des juifs. Lorsqu'il a embrassé l'islam, il a déclaré que je ne peux retourner chez les juifs, car je ne pourrais pratiquer les enseignements de l'islam et je pourrais aussi perdre la vie. Et leurs troupeaux sont avec moi. Que dois-je faire? Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a dit de pousser ses moutons dans la direction de la forteresse juive. Les musulmans étaient en état de guerre et ils étaient faibles financièrement. Les musulmans étaient au bord de la famine. Mais ils n'ont pas brisé leur engagement. Il est impossible que l'on soit musulman et malhonnête. La première leçon que le saint prophète a donnée à ce musulman est qu'il doit respecter ses engagements et de ne pas être malhonnête. Nous disons que nous appartenons à une communauté divine. Nous disons que nous sommes en train de subir cette persécution au nom de Dieu, que nous sommes en train de voir souffrir nos proches et nos parents. Comment pourrons-nous donc aller à contre-courant de ces enseignements, des enseignements qui ont été apportés par l'imam, par le hakam et l'adol de notre période? Sommes-nous en train de respecter nos engagements? Si nous le faisons, alors certainement nous aurons le plaisir de Dieu, alhamdoulilah. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. En raison des disputes entre époux, en raison de disputes entre frères et sœurs, certains ne respectent pas leurs devoirs envers les uns et les autres. Dans certains cas, on lèse les droits des autres. Donc, on va devoir faire une analyse minutieuse et respecter tous ces engagements. Une autre qualité, comme je l'ai dit, c'est le respect de ses promesses et de ses engagements au sein de toutes les organisations auxiliaires et au sein de la Jamaat en général. On fait le serment que l'on sera toujours prêt à sacrifier sa vie, ses biens, son temps et son honneur pour la cause de la Jamaat. Vous avez répété ce serment aujourd'hui. C'est un très grand serment. Ce n'est pas un serment que l'on doit se contenter de répéter verbalement. C'est un serment très important que prononce un khadim ou un membre de la communauté. Chaque instant de la vie du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné qu'il s'est acquitté de ses engagements envers Dieu.
Allah Ta'ala
Et Allah aussi en est témoin. Allah a déclaré qu'il a certainement respecté chacun de ses engagements. Mais dans certains cas, certaines personnes essayent d'interpréter les détails concernant les engagements ou les promesses qu'ils ont faits. Mais le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a respecté tous ses engagements à la lettre afin qu'on ne l'accuse pas. Abu Sufyan était un ennemi acharné du saint prophète Mohammed B.S.A. lui avant d'embrasser l'islam. À lui, Héraclius lui a demandé si le saint prophète avait jamais brisé ses promesses ou s'il n'avait pas respecté ses engagements dans le passé. Il y a des centaines d'exemples de ce genre. Il y a l'exemple de cet ambassadeur qui est venu le voir et qui l'a demandé de retourner chez lui en dépit d'avoir accepté l'islam. Le saint prophète lui a dit que tu as un engagement que tu dois respecter, retourne dans ton pays. Et si tu es satisfait à propos de l'islam, alors retourne ici. Mais tu ne peux pas rester ici en tant que tel. Nous voyons de tels exemples au cours de la vie de ses compagnons et de ceux qui ont profité de leurs enseignements. L'on raconte que deux jeunes se sont présentés à Hadrat Omar et lui ont présenté un autre jeune homme en disant que celui-ci a tué leur père. Hadrat Omar a interrogé cette personne et celle-ci a déclaré que oui, j'ai tué leur père. Hadrat Omar a déclaré que les fils de la personne que tu as assassinée veulent que tu donnes ta vie. Et tu seras donc châtié. Le jeune meurtrier a accepté cela, mais il a dit que j'ai à remettre à mon frère cadet ces biens que mon père m'avait confiés. Il n'est pas présent ici et je dois lui remettre ses biens. Donnez-moi un délai de 3 jours. Après 3 jours, je vais retourner et vous pourrez me punir. Hadrat Omar lui a dit, j'accepte cela, mais qui sera votre garant? Le meurtrier a regardé autour de lui de l'assistance et son regard est tombé sur une personne. Il a déclaré, voilà mon garant. Cette personne était Abu Zar Ghaffari, un très grand compagnon du saint prophète Mohammed B.S. lui. Hadrat Omar lui a demandé, allez-vous répondre de ses actes, serez-vous son garant? Abu Zar a accepté cela. 3 jours après, les gens se sont réunis et ceux qui avaient perdu leur père se sont présentés. Le soleil était sur le point de se coucher et on s'est soucié quant à l'état de ce grand compagnon qui s'est porté garant. On a demandé à Hadrat Omar, que va-t-il se passer? Il a déclaré que il s'est porté garant et il va devoir payer. Et les enfants de la victime ne sont pas prêts de pardonner ce crime. On était tous soucieux. Et c'est là que ce jeune meurtrier, dans un état déplorable, s'est présenté à l'assemblée. Il a déclaré que je suis en retard, mais j'ai confié les biens qui m'ont été confiés. Maintenant, vous pouvez me châtier. Abu Zar Ghaffari a déclaré que je ne connaissais pas cette personne. Elle a regardé dans ma direction et j'ai vu la vérité sur son visage. Et j'ai accepté de porter garant. En voyant cela, tout le monde était ému.
Or,
Et les enfants de la victime ont été profondément impressionnés et ils ont déclaré que nous sommes prêts à lui pardonner son crime. Hadr Umar leur a dit que je vais vous compenser pour votre perte en puisant dans les fonds de l'État. Mais ils ont déclaré que nous l'avons pardonné pour la cause de Dieu. Voilà l'exemple que nous avons vu à l'époque. Et il se peut que cette personne ne soit pas un compagnon du Saint-Prophète. Certainement, cette personne avait profité de la présence et de la tarbiya des compagnons du Saint-Prophète. Tout d'abord, il a dit la vérité, il a accepté qu'il a commis ce crime. Il a accepté de subir la punition. Il savait très bien qu'il allait perdre sa vie. Ensuite, il a respecté la promesse qu'il a faite. Il a dit qu'il allait retourner après 3 jours et il est retourné après 3 jours. Ensuite, il s'est acquitté de ses engagements. Il aurait pu confier ses biens à sa femme et à ses enfants. Mais voilà la leçon qu'il nous a donnée. Il y a de telles personnes au sein de la Jamaat qui respectent leurs engagements, qui disent la vérité. Il y a de telles personnes de la Jamaat du Messie premier, l'Islam. On voit de telles personnes aujourd'hui, mais c'est la majorité d'entre nous qui doit respecter ces engagements. Donc, nous allons devoir faire une analyse à ce sujet. Au Pakistan, quotidiennement, les Ahmadis sont en train de perdre leur vie. Ils sont en train de subir des pertes. Et cela est une preuve qu'ils sont en train de faire des efforts pour respecter l'engagement qu'ils ont pris avec le Messie promis à l'Islam. Ils m'écrivent et disent que vous ne devez pas vous faire des soucis. Nous sommes prêts à faire tout sacrifice pour cette cause et pour respecter cet engagement. Avant-hier, j'ai mentionné dans mon sermon les Ahmadis du Pakistan et la Khudamul Ahmadiyya. Le sadr de la Khudamul Ahmadiyya du Pakistan m'a écrit et il a dit que je ne le fais pas sous le coup des émotions, mais je le dis clairement que nous sommes prêts à faire tout sacrifice. Et de différentes régions, les Qaïdines m'ont écrit et m'ont dit la même chose. Ils ont dit que nous sommes prêts à tout sacrifice et nous sommes prêts à respecter notre engagement. Et vous allez voir que nous n'allons pas reculer. Ils ont déclaré que, quelle que soit l'intensité des persécutions, vous allez constater qu'Inch'Allah, nous n'allons jamais reculer. Jamais nous n'allons reculer. Nous allons respecter l'engagement que nous avons pris, Inch'Allah. Voilà les sentiments qui accordent la vie au Jamaat. L'on doit respecter chaque engagement, petit et grand. Chacun d'entre nous va devoir établir ce lien avec Dieu afin de pouvoir respecter ses engagements. Chacun d'entre nous va devoir accorder préférence à sa foi et respecter ses engagements. On ne doit pas le faire sous le coup des émotions ou en lançant des slogans ici et là. On va devoir le faire avec constance et en établissant un lien ferme avec la communauté et Dieu. On doit le faire afin de transmettre le message de l'Ahmadiyya au monde. Du Pakistan, je reçois des messages de fidélité et ils ne le font pas sous le coup des émotions. Tout cela n'est pas temporaire. Je vois cela dans leurs lettres, je vois cela dans leurs actions. Cela est la voix de leur cœur. Ils sont en train de s'acquitter de leurs devoirs avec constance. Suite aux attentats du 28 mai, j'ai reçu des lettres de la part de ceux qui ont survécu à ces attentats. J'étais en train de regarder leurs lettres et je voyais dans leurs paroles des émotions extraordinaires. Et j'ai pensé à vous présenter quelques-unes de leurs lettres, afin que vous puissiez comprendre qui sont ces personnes qui ont fait ces sacrifices, afin que vous puissiez aussi prier pour elles. Il y a une lettre qui a été écrite par un membre de l'Ansarullah de la Jamaat de Lahore, M. Majid Bashir, qui déclare qu'il était dans la mosquée Baitul Nour pour la prière de Jumma. Et que là-bas, au mont Calife, on a criblé de balles des innocents, on a envoyé des grenades, des balles pleuvaient de partout et il m'est impossible de décrire cette scène. Lorsque l'attaque a débuté, le Mawlana Shahad était en train de commenter sur le verset « Wala yubad lanahum min ba'di khawfihim amna ». Après cet incident, notre foi s'est raffermie. Et Inch'Allah, certainement Dieu va transformer cet état de crainte en état de paix. Et certainement Dieu va se venger et va attraper ceux qui ont empêché les Ahmadis de prier ce jour de Jumma. En voyant la mort en face, j'avais une seule prière de la bouche. J'ai dit, « Oh mon Seigneur, ces personnes ont accepté ton Messie. Ces personnes sont faibles et ont certitude qu'en toi. Est-ce que tu vas les détruire ? Certainement non. Protège tous les Ahmadis. Dans cette chaleur torride, les gens étaient en train de donner à boire aux uns et aux autres en utilisant leur chapeau. Des petits-enfants avaient peur et les vieux étaient accablés de chaleur. On ne peut mentionner cette perte subie. Il a déclaré, « Ah, si moi aussi j'étais tombé en martyr, si je n'avais pas vu ce jour, je suis complètement abasourdi. Quelle était la faute de ces innocents ? Leur seule faute était qu'ils avaient obéi au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qu'ils ont accepté son Messie. Ce sont des personnes qui aiment la paix et qui sont obéissantes. Lorsque le missionnaire a annoncé que l'on doit s'asseoir et que l'on doit prier et que l'on doit réciter le Daroud, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhubika min shururihim, tout le monde s'est assis et ils ont accepté ces balles dans leur poitrine. Ils ont essayé de protéger leurs enfants et cette attaque terroriste a duré plus de 2 heures. Peut-on voir de telles actions de la part de ceux qui sont faibles de foi? Monsieur Zishan écrit que les Khudam ont arrêté 2 terroristes et ont pu tuer un d'entre eux. Les policiers ont refusé de donner des armes aux Khudam et n'ont rien fait. C'est grâce à la bravoure des Khudam qu'il n'y a pas eu de perte. S'ils n'avaient pas été braves, on aurait subi de grandes pertes. Une autre personne écrit que j'étais présent ce jour-là, moi et mes deux enfants. Il y avait Luqman qui aura 12 ans et Hassan qui aura 6 ans. Mes deux enfants ont été très patients. En voyant leur patience, Dieu m'a accordé davantage de courage. Ils sont tous de Wakfenao. Le sermon a débuté et la fusillade a débuté à l'extérieur et une grenade est tombée à l'intérieur. Je suis sorti à l'extérieur, moi et mes enfants, et nous nous sommes cachés dans un coin. J'ai placé mes enfants sous moi afin de les protéger. Ils ont passé 4 heures dans cet état et ils ont continué à prier. Rabbi Kulli Shay'in Khadimuka. Et une grenade est tombée tout près de moi. Mon fils a dit que j'ai prié, « Oh Allah, maintenant tout est fini, aide-nous. Sans ton aide, on ne pourra rien accomplir. Aide-nous. » Et la grenade a explosé, mais ils étaient tous les trois sains saufs. Peut-on dire que l'on peut détruire la vie de telles personnes? Peut-on dire que ces personnes ne respectent pas leurs engagements, des personnes qui possèdent de telles foi? Ensuite, il y a un certain M. Luqman qui déclare que j'habite Rabwa, mais je travaille ces temps-ci à Lahore. J'étais à la mosquée Bait Nour. Lorsqu'il y a eu cet incident, l'ennemi a pénétré à l'intérieur de la mosquée et j'étais dans le sous-sol. Et je suis sorti et je suis parti vers la porte extérieure. Et un terroriste est monté et 3 jeunes qui étaient tout frêles l'ont arrêté. Ensuite, un autre terroriste a commencé à tirer partout et il a envoyé une grenade et l'a pénétré à l'intérieur de la mosquée. Beaucoup de personnes ont été tuées. De par la grâce, des blessés et un autre jeune l'ont arrêté. Allah m'a donné l'occasion d'offrir de l'eau aux blessés. Et ainsi, on s'est souvenu de l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lorsqu'on présentait de l'eau à un blessé, il a refusé d'en prendre et a dit d'en offrir à son frère qui est à côté. Certains blessés étaient dans un état très grave. Lorsque l'ambulance est venue, j'ai transporté tous ces blessés. Il y avait un jeune khadim qui était avec moi. Lorsque je lui ai dit de prendre le dernier cadavre, il m'a fait savoir que c'était son père. Oh mon Seigneur, quel courage a-t-il démontré? Même après avoir transporté le cadavre de son père, il est retourné à la mosquée et n'a cessé d'aider les autres. Ensuite, une dame du Canada, Madame Nabila, a écrit que son frère a déclaré qu'il était à la mosquée d'Anouzekar et qu'on avait envoyé beaucoup de grenades et qu'il s'était caché lui et plus de 70 personnes sous les escaliers. Il a déclaré qu'il était blessé lui-même et il a dit que s'il devait mourir, pourquoi ne pas aider les autres? Et lui et 3 jeunes sont montés sur le toit et se sont mis de faction et ont dit qu'ils vont arrêter un des terroristes. Ils ont attendu longtemps et il y avait des fusillades partout. Et ensuite, ce terroriste est sorti par une autre porte. Tout cela a duré plus de 6 heures. Et lorsque nous sommes sortis, le sol était jonché de cadavres. Ensuite, il a déclaré qu'après la prière de Juma, mon frère qui était à l'hôpital a rencontré le ministre Mian Shabbat Sharif qui lui a dit que nous allons certainement arrêter ces terroristes. Mon frère a répliqué, ce Dieu qui nous a donné la vie va les attraper certainement. Le ministre a dit de nouveau que nous allons certainement les arrêter. Et mon frère lui a dit, non monsieur, ce Dieu qui nous a donné la vie va certainement les arrêter. Voilà donc le sens de l'honneur des Ahmadis et leur foi. Ensuite, Mme Bushra Taufik Sahiba mentionne un incident en disant que la Jamaat Ahmadiyya a présenté sa vie et tout Ahmadi désire qu'il soit là-bas. Il y avait un jeune Wakfenao qui était toujours de faction à la porte principale de la mosquée. Ce jour-là, on l'a envoyé à l'arrière. Jusqu'à dans la soirée, ce jeune homme n'est pas retourné chez lui, car il voulait tomber en martyr. Une autre personne a déclaré que lors de la fusillade, un Ahmadi est tombé en prosternation. Il y avait un vieillard dont le bras était blessé et qui était en train, malgré ses souffrances, de consoler les autres. Un autre a dit qu'on est en train de prier individuellement, pourquoi ne pas prier collectivement? Et Dieu va éloigner nos faiblesses. Un aîné blessé a téléphoné à son fils et a dit que moi je vais partir. Tu es l'aîné de ta famille. Occupe-toi de ta mère et de tes frères et de sœurs. Un enfant avait reçu des balles à la poitrine. Il a téléphoné à sa mère et lui a dit de lui pardonner ses faiblesses. Et ensuite, il est décédé. Monsieur Salman a écrit qu'il y avait de la fumée partout et deux ou trois Ahmadis sont sortis et ont arrêté un des terroristes et l'ont attaché. Il avait avec lui 20 grenades et des explosifs. Donc, s'il avait pu utiliser tout cela, il aurait pu causer de grands dégâts. Et c'est là que les Khudam ont arrêté un autre des terroristes. Et c'est après plus d'une demi-heure que les policiers sont venus. Je vous ai mentionné ces quelques incidents afin de vous faire comprendre qu'en dépit des restrictions, qu'en dépit du fait que l'on ne peut pas organiser des ijtimas, en dépit du fait que l'on ne peut pas organiser des jalsa, en dépit que les Ahmadis de la barre n'ont pas la liberté d'organiser ces rencontres parce qu'on n'en a pas la permission, en dépit de cette atmosphère d'antagonisme contre les Ahmadis, et en dépit du fait aussi que les dangers n'ont fait que grandir pour les Ahmadis après ces incidents, en dépit du fait qu'il y a plus de dangers dans les mosquées Ahmadis, ces Ahmadis sont en train de respecter leurs engagements et sont fermes dans leur foi. Parmi vous qui êtes ici devant moi, il y a ceux dont les proches sont là-bas, des proches qui sont affectés directement par de telles situations. Vous avez entendu cela de leur bouche. Et il y a aussi peut-être ceux parmi vous qui ne connaissent pas ces personnes qui ont fait ces sacrifices. Et j'ai mentionné leur foi et leur bravoure. Après le passage du temps, l'on oublie dans certains cas ces incidents. Mais il est important pour nous de nous souvenir de ces martyrs et des sacrifices consentis par de telles personnes. Cela est important car ils se sont sacrifiés pour un grand but et nous allons devoir avoir pour objectif le même but. Voilà le signe des peuples qui progressent. Les peuples qui progressent n'oublient pas ceux qui ont fait des sacrifices. Ils se souviennent de leurs sacrifices et ils en tirent leçon. Et ainsi ils renforcent leur foi. Ces incidents ne doivent pas nous pousser au désespoir ou ne doivent pas nous effrayer. Cela doit au contraire renforcer notre foi. Cela doit nous préparer à faire davantage de sacrifices. Cela doit nous préparer afin que nous puissions parcourir de nouvelles voies. C'est en se souvenant de leurs sacrifices que nous pourrons respecter nos engagements à nous. Et c'est ainsi que nous pourrons réitérer nos promesses à nous. Et c'est ainsi que nous pourrons méditer sur nos promesses. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que Dieu est en train de préparer une communauté de véridiques. Nous allons devoir faire des efforts pour être parmi la jama'a de ces sadiqin, de ces véridiques. Et cela va se faire lorsque nous allons respecter chacun de nos engagements, lorsque nous allons assumer chacune de nos responsabilités. Car le Messie premier l'Islam a aussi averti. Il a déclaré qu'il y aura une jama'a de véridiques, mais si l'on n'est pas véridique, sinon aujourd'hui, demain, on va partir et on va se séparer de cette communauté. Allah ne détruit pas les véridiques. Sachez donc que nous allons devoir être véridiques et nous allons le faire, Inch'Allah, afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Nos jeunes vont devoir avant cela en tête. Et nos enfants aussi doivent avoir cela en tête. J'ai cité l'exemple des jeunes et des enfants. Et cela doit nous faire comprendre que nous ne devons pas avoir peur des attaques. Et Inch'Allah, nous allons nous acquitter de nos devoirs. Nous allons respecter nos engagements. Nous ne devons pas non plus être assaillis de doutes, à savoir pourquoi cette période d'épreuve dure-t-elle. Après chaque épreuve, nous devons avoir une plus grande certitude dans le Messie premier, l'Islam. Il a déclaré que, Inch'Allah, mais suivants atteindront les sommités. Il déclare aussi que certainement ils atteindront les sommités, mais je ne sais pas si cela va se faire au cours de ma vie ou après moi. Il déclare aussi, je n'ai pas de doute que mes suivants seront certainement riches. Ils seront certainement riches, mais j'ai peur, attention, que leur richesse ne les détourne de la religion, tout comme il en fut le cas pour les autres. attention qu'ils ne préfèrent le monde à leur foi. Nous avons donc tout d'abord cette bonne nouvelle pour nous. Cette bonne nouvelle est pour nous tous. Qu'Inch'Allah, les suivants du Messie premier l'Islam auront le monde. Mais on ne doit jamais chercher ce monde qui va nous détourner de la foi. On doit tout le temps avoir en tête les commandements de Dieu et l'obéissance envers lui. Soyez fidèles envers vos engagements et faites de votre mieux pour répandre le message de l'islam dans le monde entier. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Amin.